Évidemment, quand on parle d'alcool, quand on parle de drogue, c'est qu'il y a des drogues qui vont aller se brancher directement dans le cerveau, qui vont créer l'augmentation de dopamine, là. Entre autres, l'héroïne, le fentanyl, la cocaïne. Bref, la plupart des drogues
les pires.
vont finir par aller augmenter votre dopamine de façon importante.
Mais là, c'est pas le plaisir qui est provoqué.
C'est ça, c'est que le cycle de la récompense et la dopamine, c'est très temporaire. Puis si vous avez une... Comment pourrais-je dire? Il y a des gens qui ont une facilité, sans le vouloir, à devenir dépendant. Mais là, à chaque fois que la dopamine augmente, elle diminue, c'est assez rapide. Et là, vous allez vouloir recréer ce cycle-là. Mais il y a des gens pour qui, tu sais, je veux dire, on a tous des choses qui nous créent beaucoup de bonheur en peu de temps. Puis ça ne veut pas dire que vous allez devenir dépendant à ça nécessairement.
Mais est-ce que tu peux être dépendant à certaines choses puis te foutre de d'autres? Je m'explique, mettons, moi, le sucre, là, c'est épouvantable comment j'ai la misère à me débarrasser de ça. Mais d'un autre côté, tout ce qui est drogue, alcool, j'ai pas l'impression que je pourrais tomber dépendante. Fait qu'est-ce que... Comprends-tu ce que je veux dire?
Oui,
c'est
oui.
Une étiquette de base où ça dépend... Exactement, où ça dépend des produits que tu consommes.
Exact, ça dépend de ta fragilité personnelle, si tu veux, là. Puis c'est dans le cas du sucre que tu parles. En fait, c'est les fameuses expériences de Pavlov, là, dans le sens que le sucre... Mettons là que tu te dis « Ah, je vais aller me manger un sac de jujube pour dire quelque chose. » Tu te souviens que la dernière fois que tu as mangé un sac de jujube, tu étais stressé, tu as pris ton temps, tu as mangé tes jujubes, tu étais bien. Puis là, tu as comme fait « Ah, oh, quel bonheur! » Puis ton cerveau, à force d'avoir mangé des jujubes à chaque fois pour te récompenser, va se souvenir que les jujubes sont associés à la récompense.
Comme un chien.
Et c'est vraiment... Bien, en fait, Pavlov c'était le chien, avec les chiens, justement.
Ah, okay.
Oui, tout à fait. Fait que ça vient de là. Puis les humains, on est comme d'autres mammifères, donc les chiens, et on crée le même cycle de récompense.
C'est quand même particulier parce que je vais parler de deux produits qui créent des fortes dépendances, puis mon expérience personnelle entre les deux est radicalement différente. Je fume des cigares, je suis capable d'arrêter de fumer pendant 2 mois, 3 mois, j'ai pas de manque, j'ai pas d'impression de sevrage, j'ai pas d'impression de besoin non plus. Je peux tomber en vacances, puis là, je peux me griller 2-3 cigares par jour quand il fait soleil, puis que je me donne l'impression que je suis en Jamaïque, alors que je suis à Charlebourg, là. Mais, tu sais, en période hivernale, quand il fait moins 30 dehors, le plaisir de fumer un cigare,
diminue, hein?
Pendant 30 minutes, je le trouve juste pas, mais j'ai pas ce besoin-là. L'alcool, faut que je fasse attention. L'alcool, je sens que c'est facile pour moi de prendre une bière à tous les jours. Je sens vraiment la différence physique et mentale entre les deux.
En fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a, tu vois déjà que tu parles du contexte. Par exemple, ouais. Le cigare, pour toi, est associé aux vacances. Tu n'es pas en vacances 52 semaines par année.
Si
donc,
seulement. Si seulement,
tu Élise. Parles de chaleur. Oui, tout le monde se dit la même chose. Mais tu parles de chaleur, tu parles de soleil. Fait que là, tu dis, ben là, l'hiver, il fait froid. Fait que déjà, ton cerveau s'est conditionné à dire le cigare est associé à certains...
Il y a un contexte
très précis. Mm-hmm. Versus l'alcool, pour toi, si c'est la fin de la journée a été stressante, je vais me prendre une bière juste pour... couler dans ma journée. Puis là, à chaque jour, donc, tu peux te dire exactement dans le contexte, ah, j'ai une bonne journée aujourd'hui, ah, les enfants ont été quelque chose, etc.
Je suis le gars de la pub. Je suis le gars de la pub dans le temps de la pandémie. J'ai eu une bonne journée, je le mérite. J'ai eu une mauvaise journée, hey, tabarnouche, je le mérite.
C'est facile, hein, oh, je le mérite.
Oui.
Ben,
oui.
C'est exact, puis c'est comme ça que ce cycle-là de récompense se crée. Fait qu'il y a des gens, c'est, j'arrive à la maison, je vais aller écouter la télé ou les jeux vidéo. En fait, même les réseaux sociaux, tout maintenant aussi, ce qui est étonnant, entre autres dans la technologie, a été construit pour créer des dépendances et stimuler le cycle de la récompense.
Mais là, est-ce que toutes les dépendances créent des sevrages si on s'en prive? Parce que, tu sais, Denis, il disait, j'aurais pas de symptômes de sevrage de cigare. Mais tu sais, c'est sûr que quand on parle de drogue, on les voit, les symptômes. Audrey a tenté de se sevrer du... Le café. Audrey a tenté de se sevrer du sucre. Denis a déjà tenté de se sevrer du café. C'est des maux de tête qui viennent avec.
Ah, est-ce le café, que... je suis addict, là.
Est-ce que tous les symptômes sont égaux selon les différentes dépendances ou les productions de dopamine?
Exact. Non, la réponse, c'est non. Parce que, mettons, on va prendre la nicotine, par exemple, qui va aller se brancher sur des récepteurs spécifiques dans votre cerveau. Puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous fumez, donc plus vous augmentez votre consommation de nicotine, entre autres, il va y avoir de plus en plus de récepteurs qui vont se créer pour la nicotine. Fait que là, vous comprenez que c'est que vous créez, il y a une tolérance qui se crée dans le corps sur ces substances-là. Le café est un bon exemple. L'alcool, toutes les drogues, c'est comme ça. Donc, la journée où vous diminuez votre consommation, comme vous étiez devenu de plus en plus tolérant, automatiquement, il va avoir des symptômes de sevrage associés. Le sucre, c'est différent parce qu'il n'y a pas de récepteur dopaminergique. Fait que si, mettons, Audrey, toi, tu as vécu des symptômes de sevrage, il y a deux options possibles. Un, tu étais clairement dans un cycle de récompense, donc tu es déjà d'avoir moins de dopamine parce que là, tu ne manges pas de sucre, tu ne te sens pas bien. Fait que ça, peu importe la dépendance, on va avoir des petits symptômes, mais c'est plus léger. L'autre chose, c'est peut-être juste l'apport calorique. Si tu mangeais full sucre, de jujube, de gâteau, de... puis là, genre, tu mangeais comme 600 calories de plus par jour, puis du jour au lendemain, tu coupes ça, ton corps, il va faire « Pourquoi, là, j'ai plus ces calories-là? »
Ça ferait du sens.
« Mal de tête, j'ai faim,
chaleur,
je suis pas bien. »
Exactement,
parce que t'es peut-être juste en déficit, en fait, de calories, parce que t'as pas mis, mettons, des bons sucres, t'as pas rajouté des bananes, des pommes ou des choses comme ça.
Puis tu sais que ça prend plusieurs bananes pour combler un besoin de chocolat.
Ben c'est ça. Mais exactement.
C'est vrai.
C'est un bon point. Fait que c'est le genre de choses, quand c'est alimentaire, où les nutritionnistes sont vraiment les meilleurs pour dire « OK, t'sais, clairement, mettons, vous cravez pour des chips puis du gras, ben là, on va aller le transformer avec d'autres choses. »
Élise, le pire manque à gérer, c'est lequel? Tu sais, on voit dans les films souvent les drogues dures, à quel point le monde vire fou. Y en a qui nous disent que c'est l'alcool, il y en a qui nous disent que c'est le tabac. Universellement, y a-tu un manque qui est plus dur à gérer que l'autre pour des raisons chimiques, mettons?
Celui qui est le plus relié au décès, c'est l'alcool. Parce que l'alcool, dans le fond, va se brancher sur des récepteurs qui, quand vous le retirez l'alcool subitement, vous êtes à haut risque, entre autres, de faire des convulsions, de faire une maladie rare qui s'appelle le délirium tremens.
Donc, c'est vrai tout ça.
Une tempête électrique dans le cerveau, vous hallucinez des bébites, votre cœur roule à 150, puis il y a des gens qui en décèdent à chaque année. Fait que la substance, puis évidemment, comme l'alcool est très accessible, c'est ce qu'on voit le plus. Puis à chaque année, il y a des décès associés. Héroïne, cocaïne, amphétamine, toutes les autres drogues, les gens vont se sentir très mal. Mais de là à dire qu'ils vont en décéder, habituellement, non. Puis là, nous, en fait, maintenant, puis là, c'est le danger aussi, parce qu'on peut donner des médicaments pour pallier le symptôme de sevrage, mais on ne veut pas les rendre dépendants aux médicaments, vous comprenez? Fait que là, nous, il faut qu'on fasse attention quand on les soigne, ces gens-là, pour éviter de les rendre dépendants à d'autres choses.
Mais pour créer ce manque-là pour la boisson, parce que ce que tu dis, c'était peurant, tabarnouche, faut que tu en prennes, genre, dans des quantités astronomiques.
Oui.
Je pense au chanteur de Sum 41. C'est un cas qui est connu, qui est documenté.
Son fouet n'était plus fonctionnel.
Les boys rentraient dans le tour bus, puis il y avait des bouteilles de Jack Daniels vides quasiment jusqu'à la taille, littéralement. Ça veut dire, tu sais, quand on parle de symptômes graves comme ceux-là, c'est des gens qui sont en état d'ébriété constant, j'imagine.
C'est pas 3-4 consommations par jour. Uh-huh. C'est nous, ce qu'on voit à l'hôpital, c'est des gens qui prennent une 24, qui prennent des 26 onces par jour.
Oh mon Dieu.
Fait que comprenez-vous que eux, leur taux d'alcool dans le sang standard, moi, si j'avais ce taux d'alcool-là, je serais dans le coma à terre, mais eux sont très fonctionnels et ils te parlent comme je te parle.
Oui.
Ça paraît pas, parce qu'on fait toujours un dosage sanguin, parce que dans le fond, on veut savoir quand est-ce qu'on commence nos médicaments. Fait qu'on vérifie, puis là, on leur demande, c'est quand la dernière fois vous avez consommé. Puis là, souvent, ils me disent, j'ai consommé la dernière fois à 8 heures le matin, parce que ces gens-là en prennent tout le temps. Là. Ils déjeunent en buvant de l'alcool, ils dînent en buvant de l'alcool. Puis là, à ce moment-là, on regarde leur taux d'alcoolémie, puis on est comme, mon Dieu, ils sont 4 fois la limite permise, puis j'aurais jamais cru.
Il y a un texto qui est entré. Est-ce que les antidépresseurs font le même genre de choses sur les récepteurs? Parce qu'on entend souvent dire qu'il faut que tu te.
En fait, c'est tout à fait. La réponse, c'est encore une fois, oui, vous le savez, je réponds toujours un
peu
dans la nuance.
C'est toujours
ça,
exact. Ouais, c'est ça.
C'est tout dépendant parce qu'il y a plusieurs classes d'antidépresseurs. Puis effectivement, par exemple, il y en a beaucoup qui jouent sur la sérotonine. Je vous disais que c'est l'hormone de antidépresseur, si vous voulez, la sérotonine. Ce qui fait qu'il y a entre autres des antidépresseurs qui vont fonctionner pour augmenter le taux de sérotonine dans notre synapse. Il y en a d'autres qui vont aller se brancher sur le récepteur de la sérotonine pour pouvoir qu'il soit plus accessible. Bref, il y a différents mécanismes. Et donc, oui, tout à fait. Une fois que vous avez fait de la psychothérapie, votre vie va mieux. Puis là, on se dit, OK, là, la béquille médicamenteuse qui était nécessaire, hein, je dis béquille, mais de façon très positive, comme quand on se casse une jambe, on a une béquille. Mais là, tranquillement, souvent, il faut la diminuer de façon très en marche d'escalier parce que sinon, ça crée effectivement des symptômes de sevrage. Tout à fait.
Combien de temps? J'imagine que ça dépend évidemment des substances, là, mais combien de temps ça peut prendre? Je vais reprendre le sucre ou le café en exemple parce que j'ai l'impression que c'est la majorité des gens.
C'est commun,
oui. Tu sais, moi, j'avais pas comme but au début de l'année d'arrêter le sucre, sauf que je suis partie en voyage, ça a donné que j'en ai quasiment pas pris, puis je me suis dit, hey, je vais essayer de continuer ce lancer-là. Puis ça a comme pas été long, on dirait
4 jours.
Une semaine et demie, là.
OK, OK.
4 jours. ouvrable. Oui, c'est ça. Puis je me suis dit, mettons que j'avais voulu vraiment forcer puis être super assidue par rapport à ça, jusqu'à combien de jours, de semaines tu peux ressentir vraiment un inconfort avant que ton corps s'habitue?
En fait, il y a deux choses. Il y a, mettons, on parlait de l'alcool ou des drogues. Mm-hmm. Tu sais, le principe de dopamine puis de sevrage dans le cerveau est assez rapide. C'est quelques jours. Mais par contre, il y a tout le volet de ton comportement.
D'habitude.
De cycle de récompense qui, ça, il y a... Ça, c'est toute la vie, en fait, là, t'sais, de pas, je te dis pas d'avoir mal au cœur, de te sentir vraiment pas bien. Ça, c'est, habituellement, c'est assez rapide. Mais de dire qu'à un moment donné, on a on crave en bon québécois pour de la dopamine, ben là, ça peut durer toute la vie, là. C'est, dans le sens que c'est ce cycle-là est extrêmement fort.
Puis qu'est-ce qu'on fait, mettons, pour les maux de tête?
Juste avant, je vous interromps, là. Il y a une poursuite policière sur Laurentienne Sud. Le policier et la voiture suivie semblent avoir sorti à Jean Talon. C'est à haute vitesse, nous signalent les auditeurs. Fait que les gens qui sont dans ce secteur-là, soyez vigilants. Ouais. Fait que la parenthèse est refermée. Désolé, Audrey.
Ben non, mais non, je sais plus où je m'en allais, par exemple.
Avec ton mot de tête. T'as dit mot de tête?
Symptômes. Caféine, ouais, c'est oui, c'est ça, tu sais, caféine, des fois, tu ressens des forts mots de tête. Là, qui...
Oui.
Puis là, on dirait que tu prends... Je me suis même rendu... Parce que je consomme pas beaucoup de caféine. Je sais que Denis, t'es un accro complet, là. Mais
caféine.
Quand, mettons, j'en prends pendant une couple de semaines parce que c'est donc bien le fun, c'est le temps des fêtes, mettons, puis que j'arrête, les maux de tête sont intenses. Puis j'ai beau prendre, mettons, Advil, Tylenol, faire le cocktail magique de 2-2 en cas extrême, il y a rien qui marche. Il faut juste que tu l'endures.
Ouais. Ou tu prends une petite dose, puis là, tu y vas en marge d'escalier. Mettons que tu prenais 8 cafés par jour, bien là, tu dis, OK, si je passe de 8 à 0, puis effectivement, c'est des maux de tête puis des symptômes qui sont durs à soulager, bien là, vas-y par 6, par 5, par 4, par 3, par 2, par 1. Fait que les fameux récepteurs que je vous parlais qui sont en quantité industrielle stimulés par le café vont tranquillement shrinker. Ça se renouvelle vite, cette affaire-là. Là. Puis tranquillement, vous allez finir par avoir moins de symptômes. Mais si vous y allez tout d'un coup parce que vous dites « Non, moi, il faut que j'arrache le plasteur, il faut que je fasse ça d'une traite. »
Ça va être rough.
C'est rough, mais c'est rough assez rapidement. Là. Comme je disais, souvent, un 3-4 jours, c'est fini.
Élise, j'ai deux questions. Oui. Les deux sont comme intimement reliées. La première, c'est est-ce que ça existe des gens qui vont être addicts à tout? Un comportement ou une personnalité d'addict qu'il faut qu'il fasse attention à tout ou à peu près. Là. S'il n'est pas addict à l'alcool ou s'il réussit à régler l'alcool, il va devenir addict à autre chose puis il va tout le temps passer d'une addiction à l'autre. Puis mettons, à l'autre extrémité, ça se peut-tu quelqu'un qui ne développera jamais d'addiction, même avec, mettons, les pires scénarios, là, l'alcool, la drogue dure ou ainsi de suite, ça se peut-tu, ça?
En fait, c'est qu'on a des fragilités sur notre enfance, notre expérience. C'est le lien qu'on a avec, encore une fois, la fameuse dopamine, ce besoin-là de se faire donner une récompense. Ça peut être une fragilité qu'on a. Fait que oui, puis on a des vedettes en tête, on dirait qu'ils ont passé de l'alcool à la drogue, au jeu, au pathologique. Puis comme, voyons, ils sont toujours mal pris. Donc oui, il y a des gens qui sont fragiles à ça, puis c'est là où il n'y aura jamais un médicament qui va pouvoir les aider. C'est des années de psychothérapie, de comprendre pourquoi tu as besoin d'être toujours en mode cycle de récompense dopaminergique très intense. Ils vont être dépendants au sexe, ils vont être dépendants...
Tout le temps quelque chose.
Ils vont toujours avoir quelque chose, puis ça, c'est de la psychothérapie, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Et à l'inverse, il y en a qui vont avoir eu justement... par chance, une enfance heureuse. Ils vont toujours avoir eu un environnement sécuritaire.
La tempête parfaite, mais du bon bord.
Hein. Exactement. Ce qui va faire que même s'ils sont exposés à quelque chose qui donne des gros pics de dopamine, ils vont faire « Ah oh, ouais, c'était le fun, mais c'est correct. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. » Puis ils vont continuer
Même avec des substances hautement addictives comme, mettons, l'héroïne?
Oui, parce qu'en fait, toute drogue a un effet pervers. Quand tu sens le grand bonheur d'une drogue très intense comme l'héroïne, la partie très négative après où tu te sens vraiment pas bien, il y a des gens justement qui vont se dire hey, « ça ne vaut pas le jeu, là, je ne vais pas reprendre ça ». Fait que oui, effectivement, il y a des gens qui n'auront pas ce besoin-là parce qu'ils vont comprendre rapidement le danger de l'effet négatif après une drogue aussi intense que l'héroïne.
À partir du moment où tu es en mesure, pendant une quinzaine de minutes, d'expliquer tout ce qui se passe dans le corps puis dans ton esprit quand tu as un phénomène d'addiction, t'es-tu en train de te padder à devenir addict? Est-ce que ça aide justement à pas développer d'addiction?
C'est pas fou, ça. Ben, en fait, moi, c'est pour ça que j'étais contente qu'on ait cette conversation-là ce soir, parce que je me disais effectivement... moi, puis je suis comme ça, puis je pense que tout le monde, tout humain est comme ça un peu. Quand on comprend qu'est-ce qui se passe, ça nous aide après ça à justement se donner des mécanismes de défense différemment, puis de se dire « Ah ouais, c'est pour ça que... » Puis moi, tu sais, je regarde entre autres mes beaux ados, puis je t'entendais dans la voiture, tu sais, mes beaux ados qui ont le cellulaire à la main, qui ont les jeux vidéo... Comme je vous disais, maintenant, la technologie est aussi dopaminergique.
Une addiction, oui.
Moi, je suis beaucoup dans le leur expliquer le côté cartésien. T'sais, voici pourquoi ça vous crée ce besoin-là. Quand vous finissez votre tableau, c'est fait pour que ça vous donne encore de la dopamine pour vouloir continuer l'autre tableau. Puis là, ils sont comme, ah, ouais.
C'est comme, hey, vous faites manipuler. Là.
Exactement. Puis ça, ben, il n'y a personne qui aime ça, se faire manipuler. Ou y a... Fait que oui, je pense que c'est tout à fait une bonne chose de comprendre comment ça fonctionne pour après ça se donner des bons outils. Là, ça fait un mois qu'on est en nouvelle année. Donc, s'il y a des gens qui ont encore tenu leur résolution, justement, qui avaient
il en reste-tu?
Des dépendances, bien, continuez, lâchez pas.
Yes. Puis c'est toujours le fun en passant. Moi, j'admire ça, je respecte ça énormément. Quand tu vois des gens sur les réseaux sociaux qui, une fois de temps en temps, font juste dire « Hey, moi, ça fait 7 ans que je vis sans alcool. Ça fait 1 an que je me suis débarrassé des drogues. » J'ai croisé un ancien collègue il y a quelques semaines qui, à un moment donné, a décidé qu'il arrêtait tout ça, puis il a pas lâché, puis tu vois que les gens changent physiquement, mais changent d'état d'esprit aussi, puis je trouve toujours ça fascinant, ces parcours-là. Puis les gens qui prennent ces décisions-là, puis qui sont capables de les tenir, bravo à toutes vous autres, c'est extraordinaire de vous voir aller. Élise, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
17h16, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour, on revient. Vous le savez, Expo Habitat est commencé. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 8 février. Venez rencontrer les experts de chez Moreau PRS au salon Expo Habitat de Québec au kiosque numéro 329. Vous pourrez en apprendre plus sur la gamme Sunspace Sunrooms, des produits 100% canadiens. Moreau PRS, une entreprise familiale et on fête nos 40 ans d'existence cette année. Des produits faits 100% sur mesure selon vos besoins, des matériaux de haute qualité qui sont conçus pour résister aux intempéries et aux conditions extrêmes. S'offrir un espace de vie supplémentaire à moindre coût, c'est ce qu'on vous propose grâce aux produits de Moreau PRS. Patio, rampe, solarium, c'est pas compliqué, c'est Moreau PRS. Ouverture de notre toute nouvelle place d'affaires sur la rive sud à Lévis. Au cours des prochaines semaines, on vous tiendra au courant. Moreau PRS, 40 ans d'expertise à Québec, boulevard Hamel, coin Robert Bourassa. Et bientôt, nouvelle place d'affaires sur la rive sud à Lévis. On vous attend pendant Expo Habitat.
C'est la grande vente Expo.
Je suis content de la sortie de ce sondage-là aujourd'hui parce que là, on est à radio, on jase, on dit des affaires, puis on suppose beaucoup de choses, on théorise beaucoup de choses. J'aurai jamais la prétention d'avoir raison. J'espère qu'il n'y a personne qui se promène en ville en disant « moi, je pense comme Gravel ». C'est pas un signe d'intelligence. Je suis content de voir que des fois, des chiffres confirment ce qu'on perçoit avec notre sensibilité, puis juste à regarder ce qui se passe autour. Moi, quelque chose qui m'obsède de plus en plus, c'est le fossé entre les politiciens puis les gens sur le terrain. Puis on est rendu, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas juste les politiciens qui sont susceptibles de vivre dans une bulle déconnectée de la réalité, c'est n'importe qui, n'importe quand. On le sait maintenant, hein? Avec les réseaux sociaux et les algorithmes, on peut se convaincre soi-même que tout le monde pense comme nous autres et que tous ceux qui pensent pas comme nous autres, ben c'est du monde malade ou du monde fucké d'une façon ou d'une autre. Puis on est tous en danger de tomber dans des bulles. Tu sais, je prenais l'exemple, je pense que c'est dans le pit stop que je parlais de ça avec Marceau. Tu sais, nous autres, on fait de la radio.
Ouais.
On peut facilement tomber dans une bulle de radio.
Oui.
On a juste à se promener sur des forums de radio, des Facebook de radio, parler avec du monde de radio.
Penser que la vraie vie, c'est ce qui intéresse les gens de radio.
Puis quand on va arriver en onde, ben on va faire de la radio pour du monde qui font de la radio. C'est plus ou moins intéressant pour les auditeurs puis pour vous autres, je pense. À moins que tout le monde qui font de la radio écoute Gravel dans le retour. Tant mieux si c'est le cas. Mais ça reste une minorité. Plus sérieusement... il y a les politiciens qui représentent la population, puis normalement, la job d'un politicien, c'est de prendre les besoins de la population puis de les amener vers l'Assemblée nationale, de les amener vers un premier ministre, de les amener dans les débats, dans les échanges. Puis ce qu'on dit souvent, j'inclurais pas les autres. Ce que je dis souvent en ondes, c'est que les politiciens sont déconnectés des vrais enjeux. Bon, j'ai rien inventé, là, c'est la phrase la plus banale de l'histoire de la radio.
Oui, mais on l'a vu à quelques reprises, on a eu des preuves à de multiples reprises même, je te dirais.
Mais là, on a des chiffres. On a des chiffres qui nous montrent que présentement, au Québec, les sujets les plus parlés à l'Assemblée nationale sont
pas,
ceux qui sont les moins importants pour les citoyens et vice-versa. Je trouve ça fascinant. C'est un sondage Somme le Soleil. 7 personnes sur 10 identifient dans leur top 3 des priorités une affaire. Est-ce que c'est le discours de Mark Carney sur les plaines? Non. Est-ce que c'est la souveraineté? Non. Est-ce que c'est la laïcité de l'État? C'est à la mode, ça. Hein? Il en parle beaucoup. Hein? C'est pas ça. C'est quoi la priorité des Québécois présentement?
C'est se loger, se nourrir.
C'est le coût de la vie.
Survie, ben c'est ça,
c'est le coût de la vie. Tout coûte cher. Fais-moi pas chier avec ta souveraineté. À moins que tu règles le prix de mon épicerie. Fais-moi pas chier avec la laïcité de l'État. À moins que tu fasses en sorte que ma maison va coûter moins cher, que mes taxes vont coûter moins cher, que mon appartement va me coûter moins cher à louer. Pas moins de 7 personnes sur 10 mettent le coût de la vie dans leur top 3 des priorités. C'est quoi les autres?
Et moi, je vois juste ça comme priorité.
Là, tu mettais le coût de la vie, mais le logement, j'imagine, ça doit... Est-ce que ça se sépare ou ça va tout dans le même bac?
Les deux thèmes qui arrivent les plus... on va faire un top 3. Le premier, c'est le coût de la vie.
Ouais.
Le deuxième, c'est le système de santé.
Ah ben oui, effectivement.
Ça, c'est un classique éternel.
C'est
là.
Parce que si tu n'as pas les deux pieds dedans, tu sais que dans les prochaines années, tu vas te retrouver les deux pieds dedans?
Tu sais, 70 % mettent le coût de la vie dans le top 3 de leurs priorités. 65 % mettent les soins de santé et le système de santé dans le top 3 de leurs priorités. Puis après ça, on a l'accès au logement, ce qui revient un peu au coût de la vie, on ne se le cachera pas. Le développement économique... Et la protection de l'environnement beaucoup plus bas à 23 %. Fait que mettons qu'on fait le top 4, il y a une certaine tendance. On parle d'argent. Les gens n'ont plus, les gens n'ont moins, les gens n'arrivent pas.
Puis c'est parce qu'il a fallu tellement couper dans des plaisirs de la vie pour se concentrer sur l'essentiel que c'est comme tout le reste, c'est plus important suite à ça. Là.
Les débats stupides et futiles.
Ah oui.
C'est pour une société qui n'a pas de problème. Est-ce qu'on parle des pailles en carton présentement? Pas mal moins, hein?
Une chance.
Les fourchettes en bois.
On devrait en parler plus, t'as raison, en fait.
Moi, c'est toutes les affaires qui me donnent le goût de vomir, mais on s'entend-tu que c'est des débats pour quand ça va bien, ça?
Tout à fait.
Là, le débat, c'est pas mal plus... le Subway est rendu à 20$, hein? la livre de bacon, c'est plus achetable. Il y a du monde qui deviennent végétariens par souci économique.
Ah ouais.
Parce que la viande est rendue trop chère. Les deux sujets, dans toute la liste que le sondage Somme a dressée pour les citoyens dans le sondage, qu'est-ce qui est important pour vous autres? Les deux sujets que personne ne prend, les deux sujets qui sont les moins populaires pour la population, êtes-vous capable de les trouver? Évidemment, je ne vous ai pas fait la liste, mais... Je vais vous dire que c'est des sujets qui, présentement, sont parmi les plus discutés à tous les jours. Tous les jours, dans les bulletins de nouvelles, à l'Assemblée nationale, puis un peu partout. Puis je vous dirais que toutes nous autres, là, pas juste les politiciens, toutes nous autres, médias inclus, on a des réflexions à faire par rapport à ça.
Mais la course à la chefferie de la CAQ?
Vas-y, plus global.
OK.
Ouais. La souveraineté du Québec.
Ouais.
Et la laïcité de l'État.
C'est correct. Oh, ouais,
c'est les
comprendre.
Deux sujets dont les gens se contre-sacrent le plus.
Tu dis qu'on a une réflexion à faire comme média.
Ah oh, oui, absolument.
Mais on est quand on ne peut pas en inventer non plus de l'actualité. Puis
mais on peut parler des enjeux,
tout
par exemple.
Mais ça, je pense qu'on le fait en général. Je pense que quand vient le temps de parler de coût de la vie, on va saisir toutes les opportunités de le faire. Puis je pense que les médias... sont à l'écoute de la population. Okay. C'est la politique qui n'est pas le bon reflet. Puis malheureusement, la politique prend beaucoup trop de place ces temps-ci.
Il y a un sujet dans les trois pires dont on a beaucoup parlé ici à Boulevard. C'est un sujet qui est important. Puis j'ai trouvé ça important parce que le porte-parole de la maison de sondage Somme a des explications sur cet enjeu-là en particulier. Parce qu'à 10 % tu as la laïcité de l'État. À 10 % tu as la souveraineté du Québec. C'est les sujets les moins populaires, les moins prisés, les moins importants pour les citoyens.
Puis peut-être que si on était bien aux autres niveaux, on serait intéressé à ces sujets-là, mais c'est que c'est pas prioritaire.
Exact. Exact. Mais le troisième sujet le moins populaire, le moins important, à 11 % puis ça va peut-être vous surprendre, c'est un sujet qu'on parle beaucoup à Boulevard, c'est la lutte contre l'itinérance.
Je suis pas surprise.
C'est quoi ton explication à toi? Puis après ça, je vais te donner celle du gars de la firme de sondage.
C'est que la plupart des gens n'ont pas à côtoyer l'itinérance. Tu vas la voir quand tu vas aller en ville, mais si tu n'y demeures pas, c'est pas dans ta cour. Fait que ça t'importe
peu. Moi, je vois ça même au-delà de ça. Je vois ça comme on a tellement de la misère avec nos propres sous qu'on n'a pas le temps de donner de l'attention à malheureusement le malheur des autres. On n'a pas le choix de se concentrer sur notre portefeuille.
Audrey a une partie de la réponse, ou à tout le moins de la théorie du gars de la maison de sondage qui dit les gens sont tellement dans le trouble financièrement qu'ils se disent qu'il n'y a rien à faire pour les sans-abri présentement. Mm-hmm. Parce qu'eux autres ont de la misère à payer l'épicerie. Hein? C'est un abandon dans le sens où ils se disent d'une part, des sans-abri, il y en aura toujours, puis d'autre part, tant que moi, je ne serais pas capable de payer mon épicerie...
C'est de la survie, là.
Oui, puis, tu sais, je ne porte pas de jugement sur la réflexion derrière ça, mais il y a quelque chose de normal là-dedans aussi. Puis c'est pas de l'égoïsme. C'est juste que présentement, tu as des problèmes qui sont importants à régler. Puis quand tu as des problèmes qui sont importants au quotidien, l'insécurité alimentaire, la peur de ne pas être capable de payer ta maison, ton hypothèque ou ton logement à fin du mois, bien, on s'entend entre vous puis moi, le troisième lien, le tramway, la qualité de l'air à Québec, c'est tous des sujets qui s'en vont sur le back burner. Là. Il y a une réflexion à faire, je trouve, là-dessus, beaucoup. Puis... Le gars de la maison de sondage disait ça, c'est un message direct à Paul Saint-Pierre Plamondon.
Il peut arrêter de parler de la souveraineté puis se concentrer sur le day-to-day.
Ouais.
Hey, ça rime.
Ouais. Puis la clé de la prochaine élection est peut-être là.
Ça veut dire que si, mettons, celle, ou peut-être celui, qui se retrouve à la tête de la CAQ ou encore celui qui va être à la tête du Parti libéral du Québec, s'il arrive à avoir le bon discours par rapport à hey, « nous, on va vous aider », à ce que votre quotidien soit moins lourd, qu'il y ait moins de préoccupations financières, alimentaires, de logement, bien peut-être que ça pourrait prendre le dessus sur le PQ.
Puis les gens ont besoin de se faire parler d'économie. Les gens ont besoin d'entendre des plans économiques. Pas on va investir dans une entreprise suédoise qui va faire des batteries. Ils veulent savoir ton plan pour que mon épicerie me coûte moins cher.
Plus concret.
C'est quoi? Ton plan pour que notre économie aille mieux? Pas notre fonds d'investissement, notre économie au quotidien, notre budget de citoyen. Veux-tu nous enlever un palier d'impôts? Veux-tu nous enlever un formulaire? Veux-tu enlever les taxes sur les biens de première nécessité,
oui,
d'alimentation? Les gens ont besoin d'entendre parler de ces gros enjeux-là que les politiciens évitent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, s'embrasser beaucoup de choses.
Ouais.
Mais je pense que là, c'est le temps d'en parler. Il y a le contexte international qui nous force à ça avec les tarifs, puis tout, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Éric Duhaime qui arrête de niaiser puis qui commence à parler d'économie
avec
comme un
solutions.
Adulte puis qui laisse faire le côté conservateur social, moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut gagner beaucoup de terrain très rapidement. Même chose pour le futur chef de la CAQ. Que ce soit Christine ou que ce soit Bernard, la personne qui va avoir un plan économique, qui va avoir un petit peu de sex appeal, c'est quelque chose qui va toucher bien des gens. Comment s'appelle le futur chef du Parti libéral?
Monsieur Milliard.
Monsieur Milliard. Il peut gagner aussi là-dessus beaucoup. Je sais pas si vous vous retrouvez là-dedans, là, mais moi, je me retrouve en tabarnouche. Puis je suis pas surpris. Pas surpris de voir c'est lesquels les sujets qui sont les moins hot, les moins brûlants, les moins préoccupants pour les Québécois.
Je trouve ça triste parce que c'est d'une évidence, mais probablement que sur leur palier, dans leur quotidien, avec leur bon salaire, c'est pas quelque chose qu'ils ressentent au day-to-day eux autres.
Ça, ouais. C'est juste irréalisable. Tu sais, la CAQ était censée être ça. Ça donnait quoi après deux mandats? Au lieu de s'attarder justement à des véritables problèmes, ils sont tombés rapidement dans le pelletage de nuages pour que leur nom soit dans le livre d'histoire. Finalement, ils risquent d'être dans le livre d'histoire comme étant le parti qui a passé le plus rapidement dans l'histoire politique.
Hey, en passant, parlant de sondage, rendez-moi service, OK, les maisons de sondage. J'écoute tout de suite les maisons de sondage. Tout. Ouais, toute la gang, good. Prochaine fois que vous faites un sondage sur le troisième lien, j'ai une demande spéciale. Mm-hmm. Je veux que vous posiez deux questions. Êtes-vous pour ou contre le troisième lien? Mais aussi, y croyez-vous encore au troisième lien? Celle-là, là, elle m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup. J'ai l'impression que plus personne y croit au troisième lien. Ni ça arrive sud, ni ça arrive nord. Tu regardes les porteurs de ballon présentement, là, t'as pas confiance en personne sur le terrain pour amener le projet. Je serais même pas surpris qu'il y ait une différence de 30, de 40 entre les gens qui en veulent un et les gens qui n'y croient plus.
La CAQ est en train de déploser sur ce sujet-là.
Mais oui! De toute beauté, d'ailleurs.
Oui.
Y a-t-il du nouveau là-dessus?
Bernard Drainville voulait un autre débat, mais Christine Fréchette, elle a dit non.
OK, mais sur le troisième lien, concrètement?
Sur le troisième lien, j'ai-tu vu de quoi te passer? Non, absolument pas. Ah oui! Non, pas pantoute.
Oui? Non?
Non, c'est Québec solidaire qui dit à Christine Fréchette de prioriser établir le pont de Québec. C'est pour ça que j'ai dit non.
17h35. Le saviez-vous, Étienne Grandmont est contre le troisième lien? Le saviez-vous, le ciel est bleu? OK, on s'arrête le temps de redonner quelques précisions au niveau de la circulation, Audrey.
Oui, c'est quand même difficile. Là. Si vous êtes sur la capitale direction est, à la hauteur à peu près du boulevard Neuvial, il semble y avoir un incident en ce moment. Ça crée quand même pas mal de ralentissement. Direction est, en gros, là, c'est vraiment entre, je vous dirais, Neuvial et Pierre-Bertrand que c'est le plus compliqué. Direction ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne. Il y a également des problèmes dans le coin d'Henri Bourassa. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction nord. Ça commence à partir de Wilfrid Hamel jusque dans la Bretelle pour aller chercher Capitale Est. L'entrée des ponts, c'est pas terminé. Direction sud sur Henri IV à partir de chemin Sainte-Foy. Quand même assez difficile de circuler. Pour ce qui est de la rive sud, c'est vraiment la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et chemin des îles. S'il y a autre chose, on a encore le temps. 88-971-1021 texto.
Gravel. Boulevard. Dans le retour. 102-1.
Votre retraite vous préoccupe? Vous aimeriez vous assurer d'une gestion de portefeuille optimale, d'une planification financière complète et d'un plan écrit? Voyez et vivez la différence en prenant contact avec nous.
Équipe Marc-Antoine Reid, IG Gestion de patrimoine, cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Elle doit aller faire votre tour en salle à manger chez Saint-Hubert depuis qu'on nous propose l'animalerie pour adultes. C'est le cadeau que Saint-Hubert nous fait pour son 75e anniversaire qui est célébré pour l'année 2026. C'est 8 morceaux de tendre poulet servis dans la fameuse voiture animalerie qu'on connaît, mais on a dû y ajouter une remorque parce qu'il y a plus de stock. Les frites, le pain, la fameuse sauce barbecue et les deux sauces à votre choix pour vos filets. En plus d'être délicieux, c'est vraiment charmant. Il y a aussi l'offre tout un cœur, tout un prix qui est présentement disponible au comptoir et au service de l'auto de vos rôtisseries Saint-Hubert de la grande région de Québec. Tout un cœur, tout un prix. C'est la cuisse de poulet avec tous les accompagnements seulement 8,95 $ au comptoir et au service de l'auto. Puis pour la poitrine de poulet aussi avec tous les accompagnements, c'est seulement 10,95 $ au comptoir et au service de l'auto. Vraiment un bon deal. Saint-Hubert, c'est un classique.
Automobile en direct.
Ah! Ben la météo! La révision! Ben c'est moins d'eau! Ah! Des nuages pour ce soir et cette nuit, minimum de moins 22. Demain, des nuages également, maximum de moins 9, mais attention, hein, y a des vents. Le refroidissement éolien nous place ça à moins 27 en matinée et moins 14 en après-midi. Samedi, neige intermittente, maximum de moins 9. Et dimanche, sous les nuages avec un maximum de moins 12 avant un réchauffement graduel des températures. Lundi et mardi, moins 7. Et mercredi, moins 4 degrés. Véro, il y a quelques nouvelles fraîches qui sont sorties dans les dernières minutes et les dernières heures.
Oui, puis je commence avec un cauchemar qui nous est raconté par Yannick Bergeron de Radio-Canada. C'est parce qu'aujourd'hui, il y avait une enquête sur remise en liberté pour un individu qui s'appelle Oussama Gouela. donc au Palais de justice de Québec. Lui est accusé d'introduction par effraction, de séquestration, de voies de fait par étouffement et de tentative d'agression sexuelle. C'est une jeune femme de Québec qui revenait de vacances chez elle, dans son appartement qu'elle occupe seule. Et quand elle était sur son balcon pour déverrouiller la porte s'est ouverte. Il y avait un suspect armé d'un couteau qui l'aurait saisi pour la faire rentrer de force dans son logement.
Elle ne connaissait pas?
Elle ne connaissait pas et elle a été... Moi, je considère ça comme étant de la chance. Si vous êtes croyant, vous pensez peut-être que c'est autre chose. Il y a un voisin qui a vu ça et qui a appelé le 911 pour dire qu'il y avait une femme en détresse qui tentait de se sauver d'un homme qui venait de s'emparer d'elle à la pointe d'un couteau.
Ils ont pris ça au sérieux?
Le temps que les policiers arrivent, par exemple, selon ce que rapporte l'avocat, elle est âgée d'une vingtaine d'années, elle s'est débattue avant d'être projetée au sol dans l'appartement. Elle a été prise à la gorge. Il aurait exigé d'elle qu'elle fasse ce qu'il disait, sinon elle allait être assassinée. Puis à un moment donné, la prise d'étranglement a fait que la femme pensait vraiment qu'elle allait mourir. Il l'a traînée sur le lit pour l'attacher. Lui serait retourné sur le balcon parce que elle, sa valise et son sac à main étaient restés à l'extérieur. Elle a réussi à se défaire de ses attaches. Elle s'est dirigée vers la porte arrière de l'appartement et quand elle était sur le point de saisir la poignée, toujours selon son avocat, l'agresseur l'aurait rattrapée avant de la ramener de force dans le lit et c'est exactement à ce moment-là que les policiers sont arrivés puis ont été en mesure d'intervenir. C'est un pur cauchemar qui a été raconté. Vous comprendrez
c'est dans quel
coin, ça? On n'a pas ces détails-là. On a très peu d'informations parce qu'aujourd'hui, c'est dans le fond l'enquête sur remise en liberté qui avait lieu. Ça veut dire que lui, il a été arrêté, ce qu'on peut comprendre, c'est récemment, qu'il voulait retrouver sa liberté en attendant la suite des procédures. Mais là, tu comprendras qu'on estime qu'il est dangereux. Lui, il essaie d'avoir de la sympathie, là. Il a donné l'adresse d'un appartement dans le quartier Vanier comme lieu de résidence. Il dit qu'il est incapable de travailler malgré ses efforts pour se trouver un emploi parce qu'il n'a pas de statut au Canada. Son visa étudiant est expiré depuis le 31 mars 2023.
Mon Dieu!
Fait que tu sais, de ce qu'on peut comprendre de ce qui a été dit en cours aujourd'hui, on est devant un cas d'un gars qui ne devrait même plus être ici.
Ouais, on perd tellement dans la nature des gens, justement, dans ce genre de circonstances-là.
Lui avait dit aux enquêteurs qu'il s'est installé dans l'appartement 2 jours avant les événements, alors que selon des caméras de surveillance, ça faisait 8 jours qu'il était installé là-bas. Fait que c'est une histoire qui va revenir devant la cour au mois d'avril pour la suite des procédures. Mais imaginez le cauchemar de cette jeune femme de 20 ans-là qui revient chez eux après des vacances puis il y a quelqu'un chez eux. J'en reviens juste pas.
Digne de film, en fait.
Il y a d'autres nouvelles dans l'actualité. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a annoncé que la Société de l'assurance... la Société des alcools, pardon, va pouvoir recommencer à vendre certains produits américains.
Pourquoi certains?
Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on prend uniquement ceux qui pourraient être altérés d'ici mars 2027. On sait que depuis plusieurs mois déjà, la Société des alcools a retiré de ses tablettes les produits américains. Ils sont actuellement en espèce de consigne. On n'a plus le droit d'en acheter des nouveaux, mais il y en a qui seront périmés. Donc, plutôt que de les perdre et de les jeter, on a choisi de les mettre en vente uniquement en ligne ou encore dans les SAQ dépôts. Il y a donc des rabais qui sont appliqués. Et le bénéfice qu'on va faire sur ces produits-là, qu'on estime à près de 9 millions de dollars, va servir à financer des banques alimentaires.
On avait parlé de ça.
Ça fait très longtemps qu'on a parlé de ça.
L'année passée, je pense, on avait évoqué les possibilités, justement, de faire ce genre de vente-là.
Quand on avait reçu les chiffres de combien ça coûte de conserver ces produits-là à l'écart des tablettes, ça coûte une fortune. Puis on avait dit, oui, mais à ce moment-là, vendez-les, faites de l'argent avec, mais donnez-les à de bonnes œuvres. Fait que c'est ce qu'on espère faire. Il y aura un rabais de 15 % qui va s'appliquer sur l'ensemble des produits américains qui commenceront à être vendus par la SAQ.
Là, on parle de quelle catégorie de produits parmi les plus facilement périmables?
Regarde, produits qui sont dans des bouteilles de verre clair. On sait que le verre transparent protège moins bien le produit qui est à l'intérieur.
On n'aura pas de bourbon, hein? On n'aura pas de bourbon de suite, hein?
Non, absolument pas. du bourbon, Denis, ça se garde éternellement, ça peut vieillir.
On a toutes nos affaires qu'on s'ennuie, là.
Des produits de crème, des sakés. Mais tu sais, on n'a pas encore une liste par rapport à ça.
Ça va être le temps de faire le plein de soeurs pouces.
Moi, ça... Non, mais non, ils font à Montréal maintenant.
Ben oui.
Ah, c'est vrai!
La production a recommencé. Je me demande même si c'est pas revenu sur les tablettes. On peut checker.
On est la seule place bizarre où il se prend du sourpuss. Fait qu'ils ont déménagé leur usine ici.
C'est une bonne idée.
Moi, j'ai pas de produit qui me manque comme tel?
Ben moi, les bourbons, oui, beaucoup.
Il n'y a aucun produit canadien ou il n'y a aucun produit européen dans tout ce qui est, mettons, les whisky, les scotch.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Entre autres, pour un old fashion, là, je sais pas. J'ai un petit manque. Je suis pas en train de mourir, là, mais moi, c'est quelque chose qui m'a manqué.
Moi, tu vois, j'ai rentré dans ma consommation, ce que j'avais pas auparavant, du rye whisky canadien.
Okay.
Pour faire certains cocktails, je trouve que ça fait très,
ouais, mais
très
toi,
bien.
Toi, t'es fédéraliste. Moi, j'ai
Tu veux juste consommer américain puis québécois?
Moi, je veux juste prendre des bons produits, là. Fait que
c'est pas quoi le rapport?
Ben, je suis pas capable de faire semblant que le whisky canadien est bon. Là,
mais voyons,
pas...
il y en a des très bons.
Si tu le dis.
Ben
voyons.
Moi, je pense que je me connais peut-être juste pas assez aussi, là.
Non, mais là, t'es proche de la période olympique. Ton jugement est altéré, là. Je veux pas...
Mon jugement est altéré?
Ben oui, c'est la fièvre olympique. Comment qu'on appelle ça? La fièvre olympique. Fièvre. Chaleur.
Je fais pas de fièvre.
Ouais, mais là, c'est parce que c'est demain, la cérémonie d'ouverture. Je te connais, Véro. Je te connais.
Il est revenu le sourpuss, Audrey.
Ben oui, il est revenu.
Il y en a vraiment beaucoup. Mais je savais juste pas s'il était revenu sur les tablettes. La dernière fois que j'ai acheté ça, je devais avoir 16 ans avec des fausses cartes.
Mais on demandera, dans ce cadre-là, on a Raffinado qui vient nous voir la semaine prochaine, notre mixologue. On lui demandera de nous donner des alternatives qui font du bon sens.
Denis, il aime pas ça. Il veut rien savoir. C'est pas bon.
En tout cas, Don.
Voulez-vous une histoire?
Toujours.
Ouais, une histoire de palais de justice.
Ah, je pensais que c'était une histoire de toi qui t'humiliais à patinoire.
Non, une par jour, c'est ben en masse. Une histoire de mauvais voisinage.
Oh mon Dieu, vas-y.
Une histoire de chat.
De chat, OK.
Mon Dieu, Seigneur. Je sais pas c'est quoi votre pire cauchemar, vous autres. Moi, c'est un voisin qui fait ce genre de choses-là. Tu sais, chez nous, c'est mon îlot de sécurité. Faut que je me sente bien chez nous avec les miens. Ouais, c'est vraiment mon safe space. Puis dans mon safe space, il y a les voisins aussi. C'est important pour moi d'avoir des voisins qui sont respectueux, qui sont gentils. Là, à Charlebourg, je suis gâté, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai perdu mon voisin préféré, puis c'est un autre super voisin qui s'est installé à sa place.
C'est un super voisin, là. C'est un stress à chaque fois.
En plus, un de mes gars est rendu avec un meilleur ami. Puis d'ailleurs, il y a eu une petite sœur. Félicitations à mes voisins. Ben oui, c'est cute au bout. Par contre, il y a des voisins avec qui ça se complique un petit peu plus. Puis nous autres, quand on était jeunes, toi, la cour en direct, Audrey, ça te dit rien.
Le juge
la
Hodge.
Cour en direct, non.
Ouais, c'était une émission de TV où c'était la cour en direct, puis c'était pour des causes de petites créances.
Ouais.
Et c'est vraiment une histoire de petites créances qui aurait pu passer dans le temps à la cour en direct avec le juge Hodge.
Mais c'est la même affaire que Maître Goldwater.
Ça ressemblait un peu à ça.
OK.
Ouais.
J'ai la référence de
On
n'est
pas loin.
Mais avec Maître Goldwater, je pense que c'était des affaires inventées avec des acteurs.
Je me suis posé la question.
Voyons donc.
Ah non, ouais. C'était tellement attiré par les cheveux comme Jerry Springer.
Comme l'émission douteuse avec Robert Gillet, le Blackout au Lion d'Or.
Oh mon Dieu,
c'est
oui.
là que Jean-François Mercier a fait son premier rôle, d'ailleurs. Il jouait un assisté social qui était content de pas travailler puis de recevoir des chèques.
C'était fake.
Ben oui, c'était fake. C'était tous des comédiens.
Ben.
J'étais allé à l'enregistrement de cette première série-là.
Ah, ouais.
Oui. Il avait invité la presse puis il avait fait un épisode à Québec puis j'étais allé là. C'était malaisant. Ouais, c'est assister en direct à quelque chose de très cringe.
Oh, j'aimerais pas ça.
Ça reste unique.
Je m'en irais.
OK, je vous raconte mon histoire.
Oui.
Exaspéré par des trous creusés sur son terrain par le chat de ses voisins, un homme a eu la mauvaise idée de capturer le minou et de l'abandonner à 11 km de son domicile. Il n'a jamais été retrouvé.
Ben non!
Charlie le chat.
Charlie.
Vivait auprès de ses maîtres depuis 7 ans à Saint-André-Avelin, c'est en Outaouais, quand il a soudainement disparu. Depuis quelques années, Charlie dérangeait le couple voisin. Le chat prend l'habitude de creuser assez fréquemment un trou sur son terrain afin d'y loger ses excréments. Oh! Il entend ses kikis de chat.
Comme tous les chats. Là.
Les voisins se plaignent aussi de dommages faits à leurs aménagements paysagers relativement élaborés. Donc, probablement une figurine de gnome renversée. Là. Les voisins ont fait part de leur doléance au maître de Charlie qui ont évoqué la possibilité que les dommages soient causés par d'autres animaux, comme des moufettes, des marmottes ou des écureuils. Tu vois que ça part mal, tu sais. Un voisin qui va voir un autre voisin et dit « Hey, buddy, c'est parce que ton chat, là, il chie sur mon terrain puis il défait le jardin un peu. Tu peux-tu faire attention? »
Tu gérer,
hein? Ben, tu fais pour savoir c'est mon chat?
Oh boy.
Hein? C'est peut-être une moufette, peut-être un écureuil.
Ça peut que je l'ai vu, ton chat, aussi.
Ça, là, c'est le début d'un germe de très mauvais voisinage. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans cette histoire-là. Le voisin a réussi à prendre une photo de Charlie qui chie sur le terrain. Et selon la version du voisin, la maîtresse du chat lui aurait alors affirmé que ça lui ferait rien si Charlie disparaissait. La principale intéressée nie avoir tenu de tels propos. « Jamais je n'abandonnerai mon chat », a-t-elle assuré. Et je la comprends parce qu'un chat, c'est beau.
Ouais, mais vous pouvez le garder chez vous, votre chat aussi, là.
Je suis d'accord à 200% avec cette affirmation.
Merci.
La teneur de la discussion entre les deux voisins a son importance en raison des événements malheureux survenus le 26 juin 2023.
Il est mort.
Le voisin a admis que ce jour-là, il a capturé Charlie le chat et l'a déplacé à environ 11 km de son domicile.
En passant, j'ai des informations exclusives sur la capture du minou. Le gars est arrivé avec des minouches. Il fait le chat est monté dans le char.
Ça n'a pas été long, hein?
Sûrement.
C'est cruel, par exemple. Hein?
C'est cruel. C'est chien. Chat. Ce n'est qu'au mois d'août suivant que les maîtres de Charlie apprennent que leur voisin a admis avoir enlevé leur chat. Mais le voisin refuse de leur dire à quel endroit il l'a abandonné. Le voisin a offert au propriétaire de Charlie de leur dévoiler l'endroit où il l'a laissé, mais à une condition. La signature d'un document confirmant que Charlie n'irait plus à l'extérieur.
Hey, c'est lourd des deux bords, ça.
C'est du kidnapping!
C'est lourd des deux côtés.
Du catnapping.
J'ai pris ton chat, je l'ai catnappé, je l'ai dompé à 11 km de chez vous, puis je te dis pas c'est où. Man, tu fais ça à Liam Neeson, il y a un carnage, là.
Ben moi, je tuerais, sérieux.
Tu fais ça à Jason Statham, on a un film de 2 heures avec beaucoup de sang, là. Mais c'est incroyable. Le maître, sous les conseils d'une policière, le voisin a fini par révéler à quel endroit il avait transporté Charlie, parce que là, les policiers sont rendus impliqués. La plainte pour vol, parce qu'il y en a eu une, « On m'a volé mon chat », a été déjudiciarisée. Malgré des recherches menées pendant 5 jours consécutifs, Charlie ne sera jamais retrouvé. Le maître de Charlie réclamait 15 000 $ à son voisin à titre de dommages moraux pour la détresse et la perte de jouissance de la présence du chat. Quoi?
Non, continue.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est triste, par exemple, pour vrai.
Ben oui, c'est triste.
Mais il y a plein d'affaires tristes dans cette histoire-là.
Le voisin, de son côté, réclamait près de 9 000 $ pour les dommages causés par les agissements du minou et diverses dépenses comme du poivre de Cayenne, des caméras et un arroseur à détecteur de mouvement. Parce que lui avait acheté tout ça.
Pour capturer le chat.
Pour capturer le chat.
Pour l'empêcher de venir chez eux.
Pour l'empêcher de venir chez eux.
Il est débile un peu.
Parce qu'il défaisait sa belle rocaille. Pour établir le... Imagine-toi le juge. Pensez au juge là, qui se fait raconter tout ça des deux bords puis qui doit faire autre chose que dire « Vous êtes deux Christy de Mongol et vous vous méritez.
Hey, » Ça prend du courage pour être juge aux petites crayons.
Sérieux, tu dois avoir des journées
mais
horribles.
Mais c'est divertissant. Là. Moi, c'est là que je voudrais aller.
Hey. Mais est-ce que tu te trouves utile à la fin de la journée?
Non. Ce juge-là... Il s'ennuie du bourbon américain, je peux te le garantir. Ça lui permet probablement de passer à travers des causes de même.
Dans cette histoire-là, il y a un chat probablement mort à quelque part.
Ouais, le chat, ils l'ont jamais retrouvé. Là.
C'est peut-être trouver une nouvelle famille ou bien heureux aussi.
Peut-être. Hein. En tout cas, Charlie le chat n'a jamais été retrouvé dans l'histoire. Et le juge, à un moment donné, a dû intervenir et a dû trancher. Donc, comment ça s'est terminé tout ça?
Un chat, une moitié de chat chacun.
Le voisin, dans sa cause, a tenté de faire limiter le montant à verser. Puis lui s'est dit, moi, je suis prêt à verser la valeur économique du chat.
15 piastres?
Le chat a été acquis auprès d'un refuge pour 50 $. Donc, le voisin, dans toute sa grande générosité, était prêt à donner 50 piastres pour enterrer l'affaire. Le juge Guénard, pauvre juge, a rejeté cette option en concluant que la disparition de Charlie devait mener à un versement de 3 500 $. En contrepartie, le voisin a réussi à faire reconnaître que certaines de ses dépenses découlaient du comportement de Charlie le chat. Le juge lui a accordé un peu plus de 1 800 $ à titre de dommages moraux. Donc, au total tout, quand on finit de soustraire et d'additionner, le voisin est condamné à verser tout près de 1 700 $ au propriétaire de Charlie. Le monde est malade.
C'est rocambolesque. Il hey, faut c'est... que tu aies de l'énergie à dépenser pour t'en aller aux petites créances pour ça. Là.
J'aimerais tellement avoir assez de temps dans ma vie pour m'impliquer dans une chicane de con comme ça. Là.
Mais honnêtement, là, ben c'est sûr, s'il laissait leur chat dehors en permanence en tout temps, peut-être qu'il ne l'aimait pas autant que ça. Là, mais
attache
je dire,
ton chat. Là.
Mais au pire, attache-le, mais je veux dire...
Qu'est-ce si c'est dit? Pas un voisin, c'est un char.
Qu'est-ce
là?
Qu'il dit que c'est mon chat?
Ben là, il y avait
mon
des
chat,
photos.
Il fait pas ça.
Il y avait des photos.
Même c'est mon chat.
Ouais, ouais. Je comprends, mais en même il est débile, le voisin. Là.
Ça fait Denis Lévesque. Là.
Les deux se méritent.
Ce soir à LCN, une chicane de minou. Hein? Chicane de chat.
Non, mais il aurait pu faire plein de choses. Il aurait pu appeler la police, à la limite, là. Okay, des
pour dire quoi?
Je sais pas, là.
La police des chats?
Le chat fait caca sur le terrain?
Il doit avoir d'autres cours. Oui, mais là, de là, à se débarrasser du chat, clairement, le faire crever.
Bruno a raison par texto. On va repartir le mouvement. Je suis Charlie.
Non. Hey, franchement.
C'est mauvais goût, ça.
On mélange pas ces affaires-là.
Vic, c'est de mauvais goût.
Je trouve ça fucking drôle.
Wow!
On nous souligne que John Wick a tué 500 personnes pour un chien.
Pour
oui,
un
il
chien.
Est pas allé aux petites créances.
Il avait raison.
Il réglait ça lui-même.
Il avait raison, John Wick.
Puis imagine-toi après ça, les deux couples qui retournent dans leurs maisons respectives. Une à côté de l'autre.
Ah,
c'est ceux qui vont s'ostiner sur le grattage.
Le grattage.
Sur...
Oh, de quel man. Bord tombent les feuilles des arbres?
C'est sûr. C'est sûr.
S'il y en a un qui a des plantes vivaces, si ça passe l'autre bord de la clôture, ça doit être un scandale.
Ça, c'est un vrai cauchemar.
Ouais, aller vivre dans des chalets loin.
C'est ça.
Ah, ça n'a pas de bon sens.
Tu peux pas endurer ça, sérieux.
Non. Moins 12 degrés à Québec. Le minimum est de moins 22 pour ce soir et cette nuit. Rentrez vos chats.
Où est Charlie?
C'est vrai, ça?
Où est Charlie?
Arrêtez, c'est pas drôle. Texto. Dites-vous que ma voisine a appelé la police car j'ai passé la tondeuse trop proche de sa clôture.
Ah, c'est, non, le, regarde, le monde est malade. Le monde est malade. Ah.
La police.
Ah, oui, je sais.
T'es au 911, il y a des appels d'urgence, il y a de la violence, il y a un tas d'affaires. Mon voisin passe la tondeuse trop proche de ma clôture.
Si seulement j'étais surpris. Il y a des résidents dans le Vieux-Québec présentement qui n'ont pas encore décroché que quelqu'un a dit Happy New Year le 1er janvier. On est rendu au mois de février. Pensez-y. on prévoit de la neige intermittente samedi, un maximum de moins 9. Dimanche, des nuages, maximum de moins 12. Audrey?
Il y a encore des problèmes si vous êtes sur la capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa. L'entrée des ponts, direction sud, pas terminée non plus. Et pour ce qui est de la 20, direction ouest, c'est à la hauteur de Chemin des Îles. Bye!
Moi, je m'en vais voir mes chats.
Ils chient-tu partout, tes chats?
Ils restent en dedans, mes chats.
C'est un bon chat. Is equal to the
love. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ensemble, prenons soin des chats. Des beaux chats.
On va t'arrêter de parler de même.
Demain, c'est vendredi.
Ouais. Salut.
Salut.
Salut!